Autoportrait à ma grand-mère, c'est le titre de la performance spectacle présentée par Patricia Alliot dans le cadre de la comédie itinérante qui est en itinérance, du coup, comme son nom l'indique, dans pas mal de villages de Drôme et d'Ardèche, et qui sera de passage chez nous à Saint-Jean-Royant à la salle de la Parenthèse ce lundi 24 novembre à 20h. J'ai le plaisir de recevoir Patricia Alliot par liaison téléphonique. Bonjour Patricia.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et bien, très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur le projet de ce spectacle théâtre-performance qui s'appelle donc Autoportrait à ma grand-mère, qui parle, bah vous allez le présenter, je ne vais pas le faire moi-même, hein, qui parle notamment d'entretiens que vous avez eu avec votre grand-mère et d'une volonté de la célébrer, on pourrait dire.
Tout à fait.
Et est-ce que donc ça s'est passé d'abord avec des entretiens que vous avez enregistrés et puis ensuite vous avez écrit un texte, c'est bien ça ?
Alors, ça s'est fait beaucoup plus dans un tissage et des allers-retours. Ma grand-mère faisait du crochet et du tricot et j'ai l'impression que j'ai hérité de cette pratique, mais que j'ai déplacée dans l'écriture. C'est vraiment un maillage, un tissage, des points, des allers-retours, parce qu'en fait, je l'ai enregistré. Et c'était moins des entretiens que des petits moments de vie comme ça, prélevés et immortalisés. Souvent, alors même qu'elle était tout à fait consciente que je le faisais, mais ce n'était pas forcément mis en scène. C'est-à-dire qu'on partait en voiture et je déclenchais le téléphone ou le petit enregistreur comme ça, ne sachant pas quelle qualité allait avoir forcément l'enregistrement.
Et donc tout ça, ça a collecté, ça a fait de la matière pour d'abord écrire, comme vous le dites, tisser les mots, tisser les souvenirs de Julienne, votre aïeule, donc votre grand-mère. Vous dites, Julienne, elle était pauvre, elle travaillait dur et parlait une langue à un temps interdite. Quelle place le breton tient particulièrement dans votre travail et puis dans ce lien avec Julienne ?
Bah, cette question de la langue perdue, de la langue proscrite, de la langue devenue honteuse, est au cœur d'Autoportrait à ma grand-mère. Et ça a été, je pense, un déclencheur, puisqu'aussi ma dernière pièce que j'avais présentée au Festival d'Avignon et à la Comédie de Valence, Dispac, Dispar, c'est aussi un nom breton. Donc j'ai vraiment pris conscience de cette langue maternelle et de la langue de mes ancêtres, qui était leur langue principale. Pour certains et certaines d'entre eux, c'était leur seule langue même, on doit dire. Et évidemment, au fur et à mesure des années, j'ai un peu exhumer ces souvenirs et surtout cette conscience politique. Parce que bien sûr, dès qu'on parle d'une langue ou d'une langue proscrite, c'est aussi une question politique et pas simplement une question affective.
Le politique va d'ailleurs tenir une place importante dans votre travail. C'est un tissage finalement entre cet intime et ce politique avec la question, on pense notamment à la question des transfuges de classe, hein, qui sont une question qui est assez sur le devant de la scène, notamment avec des écrits. Je me demandais si vous étiez inspiré de d'Annie Arnaud, qu'on connaît bien sur ces questions-là, ou même de Didier Héribon.
En tout cas, je ne sais pas si je me suis inspirée, mais c'est sûr que Annie Arnaud, je l'ai toujours lue. Enfin, je ne suis pas forcément d'ailleurs spécialiste, mais en tous les cas, j'ai aimé la lire. Didier Héribon aussi. Je viens de la philosophie, donc je m'intéresse à des tissages entre l'intime, le philosophique et le politique. Et vous parliez tout à l'heure avant l'antenne. Des récits de vie, pour moi, c'est une forme contemporaine qui est passionnante. C'est-à-dire que Autoportrait A, c'est devenu un thème au-delà du texte que j'ai écrit autour et avec ma grand-mère. C'est devenu presque une méthode d'écriture. J'ai tenu des ateliers d'écriture, animés des workshops autour de l'autoportrait A, et c'est même devenu le thème de rencontre d'un festival que j'anime en Bretagne. Donc j'ai développé cette approche, je pense, assez singulière entre l'intime et le politique. Et c'est même, ça a fait même l'objet d'un ouvrage qu'on a publié avec Florian Guetté et Achalik Sagnas aux éditions Autonomes il y a un mois, qui s'appelle Autoportrait A, performer les identités relationnelles. Donc ce qui m'intéresse vraiment beaucoup à travers ce thème, et c'est comme si c'était devenu un énoncé performatif, c'est-à-dire qui a un effet créatif sur la façon d'appréhender nos identités à l'aune de la place de l'autre centrale et peut-être même de la primauté de l'autre dans nos constructions identitaires.
Oui, c'est ça le cœur finalement de ces récits et de comment des récits intimes de personnes simples, enfin de tout un chacun finalement, des parcours simples, invisibles dans les médias, peut-être négligés d'ailleurs par la culture dominante, ils donnent aussi à voir les questions comme une enquête, comment dire, comme une photographie sociologique aussi de ce qu'était une époque, un lieu à travers ces récits intimes. Et là, c'est Julienne.
Voilà, tout à fait.
Et je me suis demandé aussi si c'était une manière, là aussi dans une volonté politique aussi, de faire un récit avec elle plutôt que sur elle, un héritage qui passe par elle d'abord.
Oui, absolument. Il n'y a pas de récit surplombant et c'est vraiment cette forme que prend l'autoportrait A. Ce sont des allées et venues entre soi et l'autre où quelque chose de la conscience de soi advient à travers la conscience de formes de vie desquelles ou auxquelles on participe. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de laisser la parole de Julienne advenir, résonner pour moi et pour l'autre, et puis laisser, comme dans une chambre à écho, l'effet résonner, quoi. Et constater que quelque chose advient pour moi-même ou pour l'autre. Et parfois, c'est de l'inconnu. Et c'est peut-être là que l'acte d'écriture intervient pour déplier ou déployer des contenus, des échos. Et c'est un véritable maillage. Et il faut bien le dire, très différent dans le livre, puisque ce projet d'écrire autour d'un dialogue ou à partir d'un dialogue avec ma grand-mère, c'est devenu un livre publié au Solitaire Intempestif en 2023. Et puis, dans le spectacle, c'est encore autre chose, puisque là, c'est un tissage et un maillage à partir des enregistrements sonores. Donc la question de l'oralité, elle passe aussi par le fait d'écouter. C'est un dispositif d'écoute.
Mais justement, je voulais vous demander comment vous avez ressenti ce travail-là de passer finalement d'abord de l'oral vers l'écrit, vers l'oral. C'est-à-dire il y a eu comme ces étapes-là avec des formes différentes. Ça aurait pu s'arrêter au texte et c'était parti pour ça. Puis finalement, ça s'est transformé en performance théâtralisée. Comment vous avez ressenti ce cheminement des mots de Julienne ou de ce que vous avez ressenti avec elle qui passe par ces étapes-là?
Je suis toujours étonnée parce que moi, je suis plutôt metteuse en scène, autrice et cinéaste, et je n'étais pas sur le devant de la scène. Et c'est comme si Julienne, la voix de Julienne, mon dialogue avec elle, m'avait, prescrit presque ou ordonné de prendre la parole. Non pas à sa place, mais d'ouvrir un espace pour nos voix entremêlées. Et donc, je l'ai pris comme un chemin un peu d'initiation, puisque j'en ai fait une première lecture publique en 2017, donc ça fait 8 ans. Et très vite, il y a eu une évidence, je crois, partagée, parce que j'ai été très encouragée à continuer ce travail de partage assez modeste, hein, puisque c'est une adresse très intime, non spectacularisée, comme une lettre dite, mais évidemment, ça a été un processus de dialogue avec moi-même et avec la censure et l'autocensure, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui étaient écrites que tout d'abord je n'ai pas dites, et ensuite qui ont eu une sorte d'autorité aussi qui se sont manifestées à moi, comme s'il fallait absolument que j'aille plus loin. Donc ça a été, comme je disais au tout début de notre entretien, vraiment un processus et un chemin d'initiation pour moi-même. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je privilégie? Qu'est-ce que je choisis de faire entendre? Qu'est-ce que j'ose faire entendre? Qu'est-ce qui reste troublant, gênant, mais que je décide quand même de partager, en fait. Donc, c'est vraiment tout un travail autour du déni, lever le déni individuel, intime, collectif. C'est là, évidemment, qu'il y a un exercice à la fois politique, mais aussi de vérité. Évidemment, toujours kaléidoscopique, hein, donc c'est un processus qui ne s'arrête jamais, puisque chaque jour, ça recommence quand je joue. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que lorsque on joue, la dimension de la performance, eh bien, c'est quelque chose de toujours réitéré. C'est-à-dire, il y a un passage, par exemple, qui s'appelle Coming Out Mémé. Eh bien, c'est pas quelque chose qui est le récit de ce qui a eu lieu. C'est à chaque fois, chaque soir, de représentation, quelque chose qui a lieu. Mmh. Et ça, c'est la force de la performance par rapport à un texte qui, finalement, appartient à celui ou celle qui le lit, seul, en secret, enfin, en secret, en tous les cas, pas forcément en dialogue conscient avec moi, puisque je ne suis pas au courant de qui lit mon texte. Alors que là, c'est toujours une mise à nu et une performance qui s'étend puisqu'elle se joue avec toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle. C'est chaque soir différent. La voix de Julienne résonne différemment chaque soir.
C'est une nouvelle rencontre avec nous, les auditeurs, auditrices ou spectateurs, spectatrices, qui va peut-être envoyer voilà, cette forme kaléidoscopique, comme vous dites, qui va donner encore une autre dimension à vos mots, mais à travers et les mots de Julienne, quoi.
Tout à fait.
Je me suis demandé si elle les avait entendus, si elle avait pu lire et vous entendre lire ce récit, ces mots.
Non, malheureusement, parce que elle est décédée avant. Mais c'est quelque chose que je prends en compte dans le texte. C'est-à-dire que, à un moment donné, je raconte qu'elle me demande, alors même qu'elle est en train de perdre la mémoire, perdre une partie de l'usage de la langue, et des langues même, puisque finalement, à la fin de sa vie, elle ne parle plus forcément très bien ni le français ni le breton, mais comme beaucoup d'entre nous qui allons vieillir, l'usage du langage n'est plus forcément au centre de notre rapport au monde. Et à ce moment-là, bizarrement, elle me demande si j'aime lire, parce qu'elle aimait beaucoup lire. Elle empruntait des livres à la bibliothèque. Et puis, à ce moment-là, je lui dis que j'aime aussi écrire. Et que d'ailleurs, j'écris un texte sur elle à partir de nos enregistrements. Et ça, c'est un moment que j'ai choisi de garder dans la performance, dans le spectacle, parce que je trouve que ça donne une clé, comme un contrat de confiance, que je ne lui ai pas volé ces mots. C'est-à-dire que En fait, je ne vais pas le spoiler là, mais sa réaction est extrêmement positive et joyeuse.
Donc vous avez l'autorisation, vous avez sa bénédiction, son aval pour continuer.
Oui, je dis souvent que ça nous relie par-delà la vie et la mort, surtout parce que entendre, c'est pas à vous que je vais dire ça, mais entendre une voix, c'est convoquer immédiatement la présence d'une personne. C'est absolument et pour toujours concret et au présent. Et moi, je dis toujours, mais Julianne, elle se manifeste. Elle existe toujours très fort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est agissant et qu'elle ne me laisse pas l'oublier, parce que c'est quand même un projet qui est sans arrêt reprogrammé. Donc j'ai l'impression que je vais jouer autoportrait à ma grand-mère toute ma vie, des fois. C'est presque pas une blague, mais une sorte de connivence post-mortem.
Oui, elle est là, elle est avec vous, elle sera avec nous ce lundi 24 novembre à Saint-Jean-en-Royans. Et c'est intéressant parce qu'il y a justement sur les récits de vie, il y a du travail littéraire qui se fait, il y a beaucoup de formes biographiques, autobiographiques qui sortent au niveau littéraire. Mais effectivement, dans l'audio ou dans le film, il y a quelque chose du grain de la voix, il y a quelque chose de l'intimité qui fait exister ce que vous dites, par-delà la mort. La personne et toute son intimité, toute sa joie, toute sa poésie, comme vous le faites là avec Julienne.
Oui, et puis il y a une véritable traversée du temps, parce que moi, quand j'entends les enregistrements, j'ai l'impression parfois qu'il y a une texture vocale très particulière, qui est liée au fait, évidemment, que j'étais plus jeune, mais c'est pas tellement cette question-là que celle de ma place. C'est-à-dire que j'ai la voix régulièrement d'une petite fille, alors même que je n'étais plus du tout une petite fille. Et je me dis, mais ça raconte quelque chose du lien où, avec une grand-mère ou parfois des parents, on est ramené à une place très infantile et très archaïque, quoi. Et surtout le fait qu'elle était très âgée, que j'étais dans une position de soins et de choses très simples qu'on faisait ensemble, comme parfois aussi on peut être enfant, quoi, dans un j'allais dire parfois presque un pur présent que l'on perd ensuite à l'âge adulte et peut-être qu'on retrouve à la toute fin de notre vie.
Oui, vous n'étiez plus une petite fille, mais vous étiez à vie sa petite fille.
Oui, et comme vous dites, la tessiture, le grain des voix exprime énormément en dehors même du contenu de ce qui est dit. Et évidemment, pour ce dont nous parlions au début de notre conversation, c'est très important, puisque ma grand-mère parle avec un accent breton, l'accent du pays pour l'être, puisqu'il y a plusieurs Bretons, et donc sa voix en langue française ou les mots bretons, mais en tout cas ça porte les traces de cette langue qui n'est plus tant que ça usitée. Enfin, elle existe toujours, hein, puisqu'il y a des locuteurs de langue bretonne encore aujourd'hui, mais disons que ce n'est plus une langue courante qu'on entend partout en Bretagne.
Et je me demandais d'un point de vue politique, toujours, vous l'appelez mémé et non pas grand-mère ou bonne maman ou mamie. On en parlait avec des amis âgés dernièrement et on se disait mémé, c'est aussi la marque d'un certain prolétariat ou d'une quelque chose de l'ordre de la classe. Et vous dites aussi elle est pauvre, dominée et aliénée. Et je me suis demandé si ce sont du coup vos mots sur son parcours et son vécu, et si elle se définissait aussi comme ça.
Effectivement, elle avait une forme typique de ce rapport de classe que je dirais presque sous-prolétaire, hein, puisqu'elle appartient à une génération aussi où il y avait beaucoup de pauvreté. C'est un mot, comme j'ai coutume de le dire, qu'on n'utilise plus beaucoup. On va parler de précarité, on va cacher, parfois se cacher à nous-mêmes, la violence de ce que c'est que la pauvreté. Et effectivement, elle avait cette tendance à l'auto-dénigrement et à une certaine forme d'effacement, typiquement de classe, mais qui, ça j'en parle beaucoup, qui s'accompagnait d'une très grande fierté, d'une conscience aussi de sa valeur, c'est-à-dire qu'évidemment c'était extrêmement ambivalent, mais elle avait intériorisé cette violence de classe, où elle nommait ce qu'elle n'était pas, ce qu'elle ne savait pas faire, ce à quoi elle n'avait pas eu accès. Il y avait aussi un endroit de plainte et de victimisation légitime, c'est-à-dire qu'elle n'avait que 2 ans à l'école. Eh bien, à la fois, elle s'en plaignait, ce que l'on peut tout à fait comprendre. Et en même temps, elle s'empressait de dire immédiatement qu'elle avait quand même appris à lire, à écrire et à compter. Et donc, elle oscillait entre un complexe de classe, un regret, un manque d'instruction et un très grand amour de l'instruction. Et là, je reprends ces mots, c'est-à-dire que l'instruction, pour elle, on entend bien que le choix de ce mot traduit à la fois toute l'estime et l'admiration qu'elle avait pour la culture, le savoir, et qui lui a manqué, et en même temps qu'elle a chéri suffisamment pour se rendre d'une certaine façon autonome. Et donc elle a valorisé cette autonomie, elle l'a beaucoup chérie au fur et à mesure des années, jusqu'à la fin de sa vie. Elle a toujours valorisé, comme on dit aujourd'hui, une agentivité très grande. Donc c'est à la fois, je reprends ces mots, mais j'essaye, enfin c'est vous qui jugerez, mais j'essaye de ne pas l'enfermer dans mes mots, et d'aller et venir, comme je disais tout à l'heure, dans un tissage et un maillage entre mes propres questions et réflexions, et puis ces réflexions et ces formes de conscience d'elle-même et du monde.
Qu'est-ce qu'elle était capable, elle, de dire sur sa condition? Et oui, ce que vous dites du rapport de classe, c'est à la fois qu'il devait évidemment se mêler avec les rapports de genre, et d'être une femme de cette époque-là, dans cette classe-là en plus, mais qui peut aussi résonner peut-être pour d'autres femmes de cette époque.
Oui, c'est incroyable comme il y a des mots qui résonnent très fort à chaque fois que je le dis sur scène. C'est-à-dire qu'un jour, elle m'a dit qu'elle n'était bonne qu'aux vaches. Et ce qui est sidérant pour moi, c'est que je travaille beaucoup sur la question de notre lien aux animaux non humains et aux animaux d'élevage. Et je m'intéresse d'ailleurs avec passion aux vaches. Et je ne peux pas m'empêcher d'y penser que c'est encore une fois une sorte d'héritage de cette vie rurale et puis de cette dépréciation de soi-même ou de... Enfin, c'est très fort et c'est comme une double violence, en fait, que j'entends quand j'entends bonne qu'aux vaches. Et c'est d'être une personne assignée au pâturage et où on ne peut pas vraiment interagir avec les humaines, mais qu'avec les animaux de troupeau, et qu'on est bon qu'à ça, quoi. Et en tout cas, il y a des paroles très violentes et très percutantes qu'elle peut avoir, qui résonnent toujours très fort parce que je les dis à voix haute.
Et en même temps, si on valorisait le travail avec les vaches, par exemple, ce ne serait pas de la violence, mais ce serait de la fierté, peut-être. C'est aussi comment notre société voit ce travail-là.
Absolument, et c'est ce que je pense, absolument.
Et quelle place pour la joie dans la vie de Julienne ?
Une grande place. Plus j'ai écrit ce texte, plus j'ai pris conscience que la joie, malgré le malheur, la dureté de la vie et tout ce qui a traversé sa vie et leur vie à toutes les personnes qui l'entouraient, la joie l'accompagnait. Et même, je dirais que plus elle a vieilli, plus la joie prenait de la place. C'est-à-dire que j'ai des grands souvenirs de même les deux dernières années où elle était à la maison de retraite. Finalement, il y avait beaucoup de rires, beaucoup de blagues. Et c'est un chapitre très important dans le livre et dans le spectacle qui s'intitule « La joie et la gaieté ». Et je dirais que c'est un des grands cadeaux qu'elle m'a offert et peut-être même une surprise qu'elle m'a léguée, qu'elle m'a réservée.
Et qu'est-ce que vous gardez d'elle ? Peut-être c'est une question un peu vertigineuse, mais là, aujourd'hui, que vous continuez à la faire vivre, que depuis son décès, en fait, elle est là à chaque fois dans un autre endroit, elle est avec vous. Qu'est-ce que vous gardez d'elle ?
Je garde d'elle ou de notre lien ? C'est une question... J'essaye d'éclaircir votre question.
Peut-être quelle mémoire ou quelle... Comme vous disiez, il y a des choses qui sont de manière invisible dans un héritage. Là, on parlait par exemple de l'amour des vaches, ou en tout cas des choses qui ont été transmises malgré vous, d'elle à vous.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste quand vous pensez à elle ? Qu'est-ce qui reste d'elle pour vous ?
Il me reste... Une immense tendresse et une incarnation qui me sidère toujours. C'est-à-dire que, en fait, quand j'allais la voir et quand je passais du temps avec elle, j'étais très liée aussi à tout un récit sur la difficulté de vivre, de l'existence. Et finalement, à force de jouer autoportrait à ma grand-mère, c'est plutôt une grande force aussi qui me reste d'elle, et une force et une certaine liberté, c'est-à-dire que vous verrez, vous entendrez, mais finalement, j'ai compris au fur et à mesure que je développais ce lien, mais aussi au fur et à mesure, depuis toutes ces années que je joue cette pièce, à quel point il y a eu une liberté et une possibilité d'inventer des situations nouvelles qui n'étaient peut-être pas perceptibles au premier abord, mais qui étaient bien présentes. C'est-à-dire que c'est aussi l'écriture qui m'a rendue attentive à ça. Donc je pense qu'il y a un héritage, comme vous disiez, il y a des héritages inconscients et que la littérature crée de nouveaux héritages. C'est-à-dire que le fait d'avoir écrit avec ses mots et en dialogue avec elle, ça a aussi inventé un autre héritage entre nous, l'héritage d'une parole libérée qui ne l'était pas, mais peut-être qu'elle m'a transmis peut-être ce bâton de parole. Et puis, je dirais qu'il y avait... paradoxalement, par rapport à ce qu'on vient de se dire précédemment sur la question de la honte de soi et d'une conscience de classe très aiguë et qui crée des formes d'empêchement, d'aliénation, il y a aussi quelque chose d'une fierté des personnes du monde rural, une force et une humilité qui est pour moi une boussole. C'est-à-dire que je reviens toujours à cet ancrage qui m'attache très profondément à la démocratie comme un horizon toujours utopique, c'est-à-dire des valeurs d'égalité et de justice sociale.
Eh bien, tout un programme. En tout cas, Patricia Alliot, peut-être que votre travail va inspirer d'autres personnes d'aller continuer à collecter ou se mettre en collectage de ces paroles-là à travers, interviewer leur grand-mère, par exemple, mais peut-être aussi d'autres personnes. Et peut-être que nous, nos générations, on a une responsabilité par rapport à ce que vous dites là, dans cette période un peu sombre en termes démocratiques et où la justice sociale, justement, est attaquée. Peut-être que c'est à nous d'aller faire ce travail-là, d'aller écouter et porter leurs paroles. Autoportrait à ma grand-mère, c'est donc une performance théâtralisée sur la base de ce livre, de ce dialogue entre vous, Patricia Alliot, et Julienne, votre grand-mère. C'est à découvrir à Saint-Jean-Royan, à la salle de la parenthèse, lundi 24 novembre à 20h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Patricia, et d'avoir joué le jeu de l'interview et du dialogue.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation et je me réjouis de vous rencontrer sur scène avec Julienne.
Merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.